au kilomètre 93,9, quittez l'autoroute, prenez la sortie Divergence FM, vous êtes sur les chemins de traverse.
Et voilà, comme promis, un tout petit peu en retard, on te retrouve Jamal avec Andalous. C'est tout de suite sur le 93.9.
Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes à Andalous sur Divergence FM 93.9. Alors vous êtes à l'émission Andalous de Divergence FM avec Modesto Jamal et surtout avec le revenant, le beau, le sympathique Bruno. Et juste pour rappeler donc nos douceurs et nos courtois auditeurs que le direct d'Andalous, maintenant c'est le lundi à 20h et la rediffusion c'est le samedi suivant à 10h30. Le thème de cette émission est consacré aux médias, les médias dans les quartiers populaires. Alors, un projet de journal de quartier en gestation depuis longtemps est considéré surtout donc comme une aventure humaine par ses initiateurs a vu le jour grâce à la synergie donc d'efforts de citoyens payadins avec la sortie donc du premier numéro le mois de novembre 2009. Alors, l'équipe du journal est composée, entre autres, de Nordine Barra, qui est auteur de théâtre, romancier et rédacteur en chef du journal Quartier Revue. Bonjour, Nordine.
Bonjour.
Avec Nordine Hakim, qui est donc rédacteur du journal Revue Quartier et qui est de métier donc commerçant. Bonjour Hakim.
Bonjour Jamal.
Et puis Kader Benoraj, aussi rédacteur de la revue du Quartier Revue. Et on peut donc appeler tout simplement Q.revue. Kader est spécialisé dans la maintenance informatique. Bonjour Kader.
Bonjour.
Et puis Mathieu Conté, c'est ça ?
Conte.
Voilà, qui est aussi rédacteur de ce journal sympathique. Alors, au programme de ce numéro d'Andalous, d'abord une présentation plus détaillée de l'équipe, parce qu'il n'y a pas que ces quatre invités. Normalement, on aurait dû avoir une douceur avec vous, Mélodie Lagrange.
Elle est malade.
Elle est malade. C'est dommage pour nous et c'est dommage pour nos auditeurs. Et puis, le programme de cette émission, c'est une présentation de l'équipe. Le pourquoi de ce journal dans les quartiers populaires. Les thèmes traités, parce qu'il y a déjà le premier numéro qui comprend à peu près 9 pages et qui est vraiment très très riche. Et puis on parlera aussi des retours collectés auprès des populations de quartier et puis des populations de Montpellier tout court. Et puis quelques réactions dans certains journaux de Montpellier, pour ne pas citer Gazette, Midi Libre et l'Hérault donc du jour. Et puis le plus important, c'est la sortie de ce second numéro qui contient donc le manifeste porté sur ce thème de l'identité nationale. Alors, messieurs, après cette présentation, nous allons vous laisser respirer, surtout après la petite discussion avec Monsieur Guesso, qui nous a rappelé la loi Guesso, qui oblige les quartiers, les villes, d'avoir au moins 20% de logements sociaux et qui regrette que cette loi n'ait pas du tout appliquée. Alors, une petite pause musicale et nous allons inviter tous les auditeurs et les auditrices à faire un voyage en Algérie, mais cette fois sans visa, avec Chab Khalas et le titre « Chekib Zaf. Alors, c'est une question de jalousie. Hein. À vous, Chab Khalas.
Édition Universo présente Khalas. خاطر خويا بالقاسم والجرة اللي تربح انا نقول لك يا بيبي خويا المايسترو يا بخيلة وما نرصير تايسون في صوم القوينة ايو امين تركي وناس الصونو ستار ايو هيجا هيجا راكي كترتي عليك امان ايو هيجا
Oh,
لهداك ويتغمضوا عيني يا واب كان حاجة واحدة من مولاي الخواب
FM 93.9, voilà, l'émission est consacrée donc au quartier populaire. Voilà, donc ce qui fait partie donc naturellement donc de la mission donc de Divergence FM, le 93.9. Alors encore une fois bienvenue donc à nos invités, donc dans le désordre, Nordine, Hakim, Kader et Mathieu. Voilà. Alors, Nordine, qui est le rédacteur en chef de ce nouveau journal, alors Quartier Revue, avec E à la fin, donc.
Avec un E entre parenthèses, c'est pour le jeu de mots, revue pour la revue, une revue, et revue parce que Quartier Revue, revue et corrigée.
Voilà, corrigé par les habitants qui habitent et qui font le quartier.
Exactement.
Voilà. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut parler donc de l'idée, donc de la naissance donc de ce journal de quartier ? Pourquoi ?
D'abord, cette idée d'un journal est plutôt vieille. C'est quelque chose dont on, d'abord avec Hakim, dont on parlait beaucoup en faisant des tours du quartier. On traîne ça depuis ado, peut-être. On cultivait une petite fascination pour les médias. On développait déjà une critique. On regardait des choses à la télé, des émissions dont on avait à redire. Et d'ailleurs, on se les redisait en marchant. Donc c'est une vieille idée qui prend forme qu'aujourd'hui, hein, grâce à la rencontre fortuite de quelques copains et les choses ont pu se faire et on est passé de l'idée à la chose. Voilà, il s'est passé une transformation aussi. On n'a pas que grandi jusqu'à ce moment, jusqu'au moment du journal. On a aussi perdu tout ce qui faisait l'idée de départ. On portait d'abord des colères, surtout des frustrations, et on pensait un peu se faire justice en portant ce journal, régler des comptes peut-être, et en très peu de temps, hein, le temps de quelques réunions rédactionnelles, ce sont des choses qu'on a perdues en route. Toutes ces plaintes qui ne paraissaient pas constructives, on les a abandonnées. Il s'est passé il a fallu ce journal aussi pour faire le tri dans nos idées. Voilà.
Donc c'est pas du tout un journal de contestation. C'est un journal pour s'exprimer parce que vous estimez que la façon avec laquelle les médias entre guillemets donc formels et institutionnels traitent les quartiers populaires comme une marchandise.
Oui, c'est un peu ça. Puis on se reconnaît vraiment pas dans ce qui est dit, dans ce qui est dit de nous. C'est un peu, pour se faire du bien qu'on écrit ce journal, pour rendre l'équité aux choses et là où il y a des informations, agir pour contrer ça, quoi.
D'accord. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table. Alors, Hakim, qui fait partie aussi donc de l'équipe du journal, donc et qui a participé donc à cette aventure humaine, comme vous l'appelez donc de tous vos vœux. Alors, qu'est-ce qui représente pour toi le journal, ce journal bien que modeste, qu'est-ce qu'il représente pour toi ?
Comment vous dire ? C'est ce journal. On avait ce besoin dans ce journal de dire, enfin comment, je sais pas quoi vous dire,
de s'exprimer, c'est ça,
de s'exprimer et d'exprimer j'ai plus dit.
C'est pas facile.
Oui, Kader.
Mais en fait, à la base, nous on se retrouve dans ce journal parce que quand on lisait différents journaux, on ne retrouvait pas ce qu'on avait envie de lire. On lisait ce que eux voulaient qu'on lise, en fait. Et à la base, en regardant, on s'est dit, mais ça serait bien de faire quelque chose d'intéressant, de faire des articles, enfin, de faire un journal en essayant de passer des messages. Pas de discriminer quoi que ce soit, pas d'accuser qui que ce soit, mais de faire des articles en essayant justement d'apporter des solutions à certaines réponses qui ne sont pas là. Et là, ça nous a fait plaisir et on s'est lancé là-dedans. Et c'est, comme vous avez dit, c'est une aventure humaine et une aventure qui nous tient à cœur surtout.
Mathieu ?
C'était l'occasion de montrer une image du quartier un petit peu plus positive que celle que les gens ont l'habitude de voir dans les journaux. On a voulu montrer que l'endroit dans lequel on vivait était un endroit plein de vie, plein de charme, plein d'odeurs, de saveurs. On fait un journal sans prétention. Il y a des articles sérieux, il y en a des moins sérieux, il y en a qui sont même plus ou moins humoristiques. On a voulu faire un journal qui se lit facilement et qu'on prend plaisir à lire. Alors que dans les autres journaux, on lit des choses sans cesse sérieuses et parfois même graves sur notre quartier. Et on voulait en donner une autre image, tout simplement.
Alors, on peut quand même présenter le journal, donc le contenu du journal. Mais juste avant, on insiste quand même pour dire que ce journal l'abonnement est gratuit, hein, oui. Pour l'instant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut aux auditrices et aux auditeurs pour avoir donc le premier numéro et le deuxième numéro, hein.
Donc, alors, en faire la demande, on a un mail quartierrevue.revue. Avec un e @gmail.com, et si on en exprime la demande à ce mail, on répondra par un envoi en pièce jointe du journal en PDF.
Voilà, donc on tâchera. Donc on a déjà posté un article donc sur notre site de Divergence, et on va donc tâcher de mettre cette adresse électronique pour que les auditrices et les auditeurs qui veulent donc découvrir ce journal et même aussi donc le distribuer donc à d'autres et découvrir donc le contenu de ce journal. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors, parlons maintenant du premier numéro, hein, constitué de 9 pages. Alors, comment peut-on aborder donc ce premier numéro, Nordine Barra?
D'abord, c'est ce qu'on appellerait le numéro 0. On l'a sorti en sachant consciemment qu'il n'était pas parfait. Mais si on le retenait encore davantage, on se serait peut-être démobilisé. On venait de passer beaucoup de temps dessus. Il fallait le pondre et se dire qu'on allait recueillir après et faire et utiliser ce premier exemplaire pour recueillir tout un tas de critiques, ce qui s'est passé. Et on est riche des commentaires qui portent sur le premier numéro pour améliorer le second. Et je pense que les premiers numéros seront des prises de risque. Et puis on se cherche un peu. On a, c'est vrai, une ligne éditoriale qu'on pourrait juger pas clair parce que les articles à la fois social, comme disait Mathieu, humour qui se mêle entre gravité et plus léger donnent un peu l'impression peut-être de se disperser.
Voilà. Mathieu ?
En même temps, c'est un petit peu notre vœu de ne pas avoir de ligne directrice, quoi. Ce qui est bien avec ce journal, c'est qu'on ne fait que ce qu'on a envie de faire. On n'a pas envie de s'attacher à une ligne directrice, ni même de s'imposer de règles.
Voilà. Hakim ?
C'est pour dire que, comparé aux autres médias de masse, on a voulu exprimer des messages que nous considérons, nous, essentiels. Non politique, dans le sens militantisme, quoi. Et beaucoup de messages d'ordre moral sans être donneur de leçons, quoi. Voilà, et ça nous a semblé un peu important quand même.
C'est vrai qu'on se prend la tête, hein, autour d'une chimie, d'une alchimie. Et c'est vrai que le dernier de notre souci, c'est de savoir si on est cohérent ou pas. Ce qui compte, comme le dit Hakim, et c'est ce dont on est le plus soucieux, c'est de ni être donneur de morale, ni servir des colères qui seraient les nôtres. On ne veut pas se payer un journal pour régler des comptes. Et on est beaucoup sur le... sur, on est beaucoup à on sous-pèse chaque article et de savoir quel poids il a avant de se demander s'il est légitime ou pas. Viendra peut-être après plusieurs numéros, quelque chose de plus clair dans nos esprits. Hein. Là, ce qu'on veut, c'est pas faire d'erreur, pas être grossier, pas trop se tromper, être juste. On tâtonne et on travaille au nez un petit peu, au feeling. On se corrige les uns les autres et on se fait confiance aussi. Chacun porte une critique et sa sensibilité qu'il ne faut pas trahir parce que c'est un journal, c'est un travail d'équipe. On est assez amis pour se retrouver tous autour d'une table, mais on n'a pas tous les mêmes affinités, même politiques. Hein. On est vraiment de tous bords et c'est ce qui est très intéressant, c'est cette recherche perpétuelle du consensus sans se montrer trop mou non plus. C'est très exaltant comme exercice.
Voilà, Nordine, on va essayer un peu de rapprocher nos auditeurs donc, du contenu donc, de ce journal. Alors, quelques thèmes. Par exemple, il y a un thème à la page 2 sur le foyer des travailleurs immigrés. Hein. Et un provisoire qui dure, c'est vrai, dans les journaux, pas de masse, mais formels, il y aura deux, trois, une photo, hein, avec trois, quatre lignes, parce que ça n'intéresse pas beaucoup donc, les gens. Mais par contre, pour les quartiers, c'est quand même important. Alors là, vous consacrez carrément une page. Un autre coup de gueule à la page 3 donc sur le problème de donc des rodéos donc et là c'est une forme donc d'autocritique donc de c'est vrai hein les premiers qui subissent la nuisance des quartiers, ce sont les habitants eux-mêmes. Hein. Ce ne sont pas les habitants d'Aiglangue ou les habitants de Neuilly, hein. Kader.
Oui, mais c'est justement par rapport à cet article. On voulait faire en sorte que les gens prennent conscience, non seulement les habitants, mais surtout ceux qui commettent ce rodéo. Et voilà, peut-être en espérant que par rapport et par le biais à ce journal, en fait, ce premier tirage, les gens qui vont lire vont être sensibilisés, vont sensibiliser eux-mêmes les gens qui seraient portés à même de faire ça, en fait, justement.
D'autant que la Paillade est sans doute le quartier de Montpellier où il y a le plus d'écoles. Quoi. Je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais il y a un nombre d'écoles assez impressionnant. Et bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire les fous sur les routes. Quoi.
Voilà. Alors, on va continuer donc la prospection donc, et le voyage donc, dans ce journal. Alors, vous parlez quand même d'un sujet qui est très grave, qui a fait donc, qui a touché donc, en grande partie donc, les habitants des quartiers populaires, surtout ceux qui retournent en vacances dans leur pays d'origine. Alors, la délinquance itinérante, et surtout ce problème donc, de délinquance qui se produit dans les autoroutes donc, de l'Espagne. Alors, est-ce que d'abord on peut situer le problème ? Qui c'est qui peut d'abord situer le problème ? Comment vous l'avez traité ? Parce que j'en suis sûr qu'il y a même des gens à Montpellier qui ne le connaissent pas. Hakim ?
Concernant le rodéo en Espagne, le brigandage en Espagne, c'est des habitants d'origine marocaine, la plupart résidant à Montpellier, à la Paillade, la plupart, qui vont en Maroc, quoi. Et qui passent par l'Espagne, ils sont victimes de brigandage, voilà, et reviennent. Et ça fait plusieurs années que ça se déroule, ça.
C'est quand même une délinquance très donc professionnalisée, hein. Voilà. Il y a des faux gendarmes, il y a des faux gardiens civils, et voilà, donc on arrête les gens et on leur prend tout, hein, l'argent, voilà, leurs
économies,
les bijoux des femmes, les économies, hein. Ce qui est dommage, c'est que l'espagnol de ce côté-là est vraiment très très silencieuse.
Ouais.
De l'autre côté aussi, le Maroc, il est aussi silencieux. Donc c'est ce qui est donc paradoxal. Et c'est vrai, ça constitue quand même un gros traumatisme pour les gens. Hein.
Voilà. C'est un article. C'est le premier article qui est né pendant l'existence après l'existence du journal. On portait chacun un article en soi avant même de se voir. On avait chacun des urgences. Moi, c'était la prévention routière. Hakim, ça aurait été autre chose, et puis Kader, Mathieu aussi. Et cet article est né vraiment d'un nouveau réflexe, c'est celui de se demander, c'est celui d'être attentif à ce qui se passe. On s'est mis à marcher dans la paillade en enquêteur, en se demandant de quoi parler. Et cet article nous a paru comme une évidence, et ce dont on... C'est ce qu'on a... Puis il est sorti un petit peu après l'été, cet article, il a été écrit un petit peu après l'été. On a saisi l'actualité. C'est un article... C'est la première démonstration de journalisme qu'on a vécu. On est allé chercher sur le terrain quelque chose qui fait l'actualité dans l'air du temps. Je suis heureux qu'on ait su capter ça et surtout que maintenant qu'on a dit ce qu'on avait à dire depuis longtemps, reste à fournir ce journal de tout ce qu'on saura capter dans l'air. Et cet article nous prouve qu'on sait aller chercher ce qui se passe, quoi.
Tout en restant sur ce sujet, en fait, on a des amis très proches qui ont été victimes. Ou les parents, des amis très proches qui ont été victimes. Et la question qui revient souvent, c'est qui peut faire quoi ? Parce qu'il y a un problème quelque part, c'est que plus on va dans le temps, et plus ces actions sont répétées. Et plus on voit un silence total, que personne ne peut rien faire apparemment. Est-ce que c'est politiquement voulu ? Ben, j'espère pas, je ne pense pas. Mais voilà, qu'on a voulu sensibiliser les gens et leur faire comprendre qui peut faire quoi. Très très important, qui peut faire quoi, parce que c'est quand même triste, ça fait mal au cœur de voir des familles partir avec le sourire, revenir avec des pleurs. C'est très très important.
Bah, surtout ça qui était important, c'est qu'on était vachement sensible au témoignage des personnes victimes de ce brigandage, justement. Et comme vous pouvez le voir dans ce journal, on parle surtout des problèmes concernant directement les problèmes des habitants de Montpellier, quoi. Par exemple, le problème d'ordre civique, dimension civique, sur le rodéo. Voilà, c'est surtout ça qui nous a touchés, c'est le contact avec la douleur de ces résidents païadins. Voilà.
Et il y a aussi, donc on va parcourir ce journal. Alors, parole d'habitants, alors vous allez voir l'habitant directement, que disent les gens de la paillade ? Parce que c'est vrai, hein, c'est des gens qui n'ont pas d'espace pour s'exprimer. Hein. Les intellectuels n'en parlent même pas, mais ceux qui ne maîtrisent pas le langage de la communication, hein, c'est des gens qui sont...
Ce qu'on a voulu exprimer dans le journal, Mathieu en parlait, c'était l'humour. Et souvent, la paillade est un sujet pris avec des pincettes et par des articles et dans des articles de médias en dehors du nôtre, il est pris avec beaucoup de sérieux. En réalité, les païadins, dans leurs problèmes de tous les jours, vivent la vie malgré tout avec beaucoup d'humour, parce que l'humour aussi aide à vivre les choses. Et c'est ce dont on rend rarement... hommage, où on rend rarement compte dans les journaux, c'est qu'il y a cet humour du païadin, il y a ce sourire pour pas pleurer, il y a cette résistance par le rire. Cette page et ces pages que l'on réserve dans le journal à vouloir sourire et au mieux faire rire, c'est deux pages sur neuf pages, c'est la proportion. Si ce journal est la matérialisation d'un païadin, c'est à peu près la part qu'il a d'humour dans sa vie, quoi. C'est au moins deux pages, quoi.
Bon. Mathieu ?
Oui.
Mathieu, qui a participé donc à l'élaboration de ce Parole d'habitant. Alors.
Oui, c'était sur. J'ai écrit un petit texte qui montrait un peu mon attachement à la paillade. C'était pour montrer une bonne image de ce quartier. Cette page, je l'aime beaucoup. C'est une page humoristique. Je pense qu'il la faut dans ce journal. Ce qui est bien avec ce quartier revue, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes envies au sein de cette équipe, et ça fait que ce journal, au fil des pages, je change de visage assez souvent, Et on y trouve de tout. Il y a des articles qui cherchent à éveiller les consciences des habitants, que ce soit de la Payade ou d'ailleurs. Il y a des articles qui visent à faire rire. Il y a des articles qui donnent un petit peu d'accès à la culture. On y trouve de tout. On y a mis de tout ce qu'on a voulu. Et c'est ce qui fait la richesse de ce journal, je pense.
Voilà. Kader.
Par rapport à ça, en fait, il faut savoir que la Payade, c'est une ville dans la ville. Oui. C'est quand même une population pratiquement de 30 000 habitants, voire plus. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on y trouve du bon, du très bon, et du moins bon. Et notre rôle, c'est de montrer une image positive, quel qu'il en soit. Quelque chose de bon, quelque chose de simple, mais un mélange des deux.
Tout ça pour dire que voilà, l'ensemble des articles qui composent ce journal, bon, tout le côté sérieux, l'aspect sérieux, l'aspect humoristique et tout ça, veut montrer une chose, c'est que la Payade est une ville... à part entière, quoi. Voilà, c'est tout.
Et voilà, c'est un monde à part entière.
Non, pas à part entière, dans le sens, pas à part entière, je voulais pas dire ça, c'est un lapsus. C'est que voilà, c'est une ville comme les autres, qui a ses bons côtés, qui a ses mauvais côtés, qui a ses joies, qui a ses peines, et voilà. Voilà, c'est tout.
Bon, alors on va faire une petite pause musicale et on va revenir pour continuer donc à parler donc de ce journal Quartier Revue, et nous allons vous présenter donc un titre kabyle de Matoub Lounes, extrait de l'album La Désillusion.
الحار ابو زين يوخر ويكون سلحار ابو زين السارت دو تغرتي نثولوين السارت دو تغرتي نثولوين يوخر ويكون سلحار ابو زين يوخر ويكون سلحار ابو زين السارت دو تغرتي نثولوين السارت دو تغرتي نثولوين ضد الطراح وقت يرسن الساقيد الفرح وقوش اليوسن سوف الشكي ضد الطراح وقت يرسن الساقيد الفرح وقوش اليوسن أيك شبح ما يشط ضحو أيك شبح ما يشط ضحو هيا ضم يوخار ويقوم سلحة ربو زين يوخار ويقوم سلحة ربو زين السائرة تدو تغرتي ناتو لوين السائرة تدو تغرتي ناتو لوين يو سادس تسلام يرفض الفوشين سم بايدي ديكاتش في تيدين يو سادس تسلام يرفض الفوشين سم بايدي ديكاتش في تيدين غات مغرى عميت يوسانو غات مغرى عميت يوسانو هيا ضو يوخار ويكم سلحة ربو زين يوخار ويكم سلحة ربو زين السائرة تدو تغرتي ناتو لوين السائرة تدو تغرتي ناتو لوين برورين فرح المدن يبضد الحنين في سينا ثقنن البارود برورين فرح المدن يبضد الحنين في سينا ثقنن اتروي ما تزوينو اتروي ما تزوينو هيا ضو يوخار ويقوم سلحة ربو زين يوخار ويقوم سلحة ربو زين السائرة تدو تغرتي ناتو لوين السائرة تدو تغرتي ناتو لوين آية سانة كرد سجرة المزيين
غير فقاد سكر سدف در تغرادين اي تسين فكر بسجرة المصيين غير فقاد سكر سدف در تغرادين افحس من بدت الشبح الدور افحس من بدت الشبح الدور هيا هو وخار ويقوم سلحار ابوزيين وخار ويقوم سلحار ابوزيين السائرة تنتم تغردين أدون وين السائرة تنتم تغردين أدون وين يوخار ويقوم سلحار أبوزيين يوخار ويقوم سلحار أبوزيين السائرة تنتم تغردين أدون وين يوخار ويقوم سلحار أبوزيين يوخار ويقوم سلحار أبوزيين السائرة تنتم تغردين أدون وين السائرة
C'était donc Matoub Lounes, chanteur algérien, donc originaire de la Kabylie, qui a été donc assassiné malheureusement dans les événements noirs qu'a vécu donc l'Algérie. Alors, toujours avec nos invités du journal Quartier Revue, hein, la nouvelle voix donc des quartiers populaires. Hein. Alors, voilà, on était donc en train de parcourir ce premier numéro. Et on passe maintenant à une page qui traite de la culture historique et en particulier un personnage très important et mythique dans la culture arabo-musulmane dans le sens large lorsqu'on dit arabo-musulmane dans le Moyen-Orient. Hein, ceux qui portent la culture, ce ne sont pas que les musulmans, il y a des arabes chrétiens, il y a des... Alors ce personnage de Juha, voilà. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord? Alors qui est Juha?
Il est décrit comme un ulama mythique hein, de la culture musulmane qui aurait vécu en Turquie au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, il aurait vécu et dont les petits contes et les petites blagues sont connues dans des dizaines de langues, en passant du serbo-croate au turc, en passant par l'arabe, le russe. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que beaucoup de civilisations se le disputent. Et c'est vrai que les origines de cet homme ne sont pas claires et certains dans leur culture le déguisent comme imam pour se l'approprier ou comme rabbin pour dire « il est chez nous ». Et je trouve ça... En fait, Nasreddin est toujours représenté sur son âne. C'est l'image qu'on a de cet homme dans les vieilles calligraphies qui le concernent. Et nous-mêmes, on l'a utilisé un peu comme premier cheval de Troie dans la culture. L'idée qu'on a avec une page culture dans le journal, c'est d'intéresser aussi les habitants de la Payade à se réintéresser à... ou à commencer à s'intéresser au goût du texte, au-delà du rap, une littérature plus classique. Et Nasreddin fait partie de cette lignée, au même titre qu'un Molière ou Shakespeare, de ce qu'on appelle un grand homme de lettres. Et commencer par Nasreddin comme cheval de Troie pour inoculer le vaccin me paraissait très... très judicieux, quoi, de commencer par lui.
Il est très connu donc dans la culture populaire, donc des gens que ce soit donc au Maroc au moins, en Algérie aussi, hein, voilà, comme un grand farceur. Et
bizarrement, je l'ai découvert que récemment. Et à mon sens, hein, au-delà des quartiers où il est aussi pas connu. D'un point de vue plus général, je trouve qu'il ne se balade pas suffisamment dans cette culture, dans la culture française. Il s'inscrit vraiment dans l'esprit de cet humour absurde qui est cher à ce pays. Hein. La France a ce goût pour cet humour sans queue ni tête. Il en est le pape, à mon sens. Il est né au XIIIe siècle et il a des blagues qui Il y a des blagues qui me font rire, moi, jeune d'un quartier de 33 ans. Je peux en lire une,
peut-être. Oui, bien sûr. Bien
très
sûr.
Courte. Un jour, des gens du village virent Nasreddin, assis sur son âne, et qui portait lui-même sur son dos un gros sac très lourd. Alors quelqu'un lui demanda « Pourquoi tu portes le sac sur ton dos? Pose-le donc sur ton âne, à côté de toi. » Et Nasreddin répond « Et que voulez-vous? Mon pauvre âne est déjà obligé de me supporter, moi et tout mon poids. Je ne vais pas en plus lui ajouter ce sac à dos. » Quoi. C'est de l'absurde, ça n'y queue ni tête. C'est, je trouve ça très, très, très actuel.
Je sais que ça fait 3-4 ans, dans le cadre des rencontres méditerranéennes, il y a deux artistes, je pense de la région de Montpellier, qui ont adapté donc un conte de Djouha. Et voilà, donc j'ai assisté donc à ce spectacle, il était vraiment magnifique, hein. C'était dans le cadre des rencontres méditerranéennes, et exactement, c'était donc à Saint-Jean-de-Védas, donc au Chai de Terral, je pense. Voilà. Kader ?
Moi, c'est toujours pareil, en fait, dans le sens de la continuité de Nasreddin Hodja, en fait. J'avais lu, en fait, une fable, si je peux la raconter, si je peux la citer, et qui m'avait marqué parce que c'était un message très clair à ceux que malheureusement qui n'ont pas eu la chance ou les possibilités de réussir, qu'il ne faut pas désespérer. En fait, cette fable, elle disait que c'était un jour un grand savant qui avait les bras chargés de livres voulait traverser une rive et il se dirige vers un passeur qui justement travaillait pour faire passer les gens. Le grand savant prit place dans la barque. Et le passeur commence à pagayer, et là, entre-temps, ils entamèrent une discussion entre les deux, le savant et le passeur. Et là, le savant remarqua que le passeur ne s'exprimait pas très très bien, qu'il avait un langage difficile. Et le grand savant lui posa la question, « Dis-moi, mon fils, n'as-tu jamais été à l'école dans ta vie ?» Et le passeur, un petit peu gêné, lui répondit non. Et là, le grand savant lui dit, alors mon fils, tu as perdu la moitié de ta vie. » Le passeur fut vexé, mais c'est pas grave, il continua à pagayer. Et entre-temps, un courant fort, fit renverser la barque. Et là, tous les deux tombèrent à l'eau. Et l'un des deux, enfin, ils étaient assez éloignés l'un de l'autre. Et le passeur vit au loin le grand savant essayer de se débattre pour ne pas se noyer. Et là, le passeur cria et lui dit « Dites-moi, maître, n'avez-vous jamais appris à nager dans votre vie ?» Et là, le grand savant lui répondit « Non !» Et là, le passeur lui dit « Alors, maître, vous avez perdu toute votre vie.
» C'est vraiment de la sagesse.
Exactement. C'était exactement ça, en fait, que j'ai retenu et qui m'a marqué.
C'est vrai, il y a beaucoup de sagesse dans les contes et dans les donc, blagues de Djouha. Alors, on va continuer donc la prospection de ce numéro, donc premier numéro donc, de Quartier Revue. On va quand même rappeler que pour avoir ce numéro gratuitement, donc bien sûr sous forme de lettre électronique, alors il suffit donc de contacter quartier.revue avec UE @gmail.com et puis on vous enverra donc le journal gratuit sur une simple demande. Alors, on va continuer donc après la culture historique et le personnage célèbre de Djouha. Alors, la suite, Nordine ?
Toujours dans la culture, plus contemporaine, très contemporaine, puisqu'on a fait un portrait, Gaël qui nous accompagne et dont la Gaël Guillaumard et dont le truc et l'art contemporain nous proposera à chaque numéro la critique ou la présentation d'une œuvre d'art ou d'un peintre. Et là, elle nous a fait découvrir à tous Ouzin, qui est un peintre dont l'art se situe entre modernisme et tradition. Il habite aux Gémeaux, donc en plus on est très content de présenter un auteur du quartier. L'article fait le rapport d'un vernissage qui a eu lieu au centre-ville. Et puis c'est l'occasion peut-être d'initier les non-initiés à la peinture, à commencer par livrer quelques codes pour mieux la comprendre. C'est ce que va faire Gaël. C'est d'ailleurs au prochain numéro, tout le monde connaît à la paillade, à l'entrée de la paillade, ce grand truc rond avec des chaises autour. Gaël s'est proposé et c'est un article à venir, nous a préparé une explication de cette œuvre d'art. Et c'est vrai que sans cette explication, cette chose restait une chose incompréhensible et dans les imaginaires, une dépense de l'État. On a dans l'idée qu'en expliquant un peu l'œuvre d'art, on a davantage de chances de le faire accepter par les gens. Voilà.
Alors, est-ce que ce journal est ouvert aux contributions donc des pailladins et bien sûr et des autres et des non-pailladins pour l'instant?
Oui, bien sûr. Mélodie fait partie de l'équipe et pourtant elle n'habite pas la paillade. Nous ouvrons à tout le monde. À partir du moment où quelqu'un a quelque chose d'assez intéressant à dire, nous lui ouvrons nos portes. Nous ne sommes pas du tout fermés. Après voilà, c'est à l'équipe de valider ou pas les articles qu'on nous propose. Nous n'avons rien de professionnel. Si quelqu'un a quelque chose d'intéressant à dire ou un combat qui lui tient à cœur, il peut le faire passer dans notre journal.
Alors vous savez qu'il y a des journaux, donc des collèges ou des écoles primaires. On sait que parmi les élèves, ce sont les filles donc, qui s'expriment donc, par l'écriture. Il suffit de regarder leur cahier de texte. Il y a parfois des élèves qui sont en difficulté. Et quand on les voit écrire, peut-être il y a beaucoup de fautes, mais il y a des idées vraiment, c'est riche, le texte est riche en idées. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des passerelles avec des écoles ou bien avec des élèves à titre personnel donc,
Oui, nous avons... C'est marrant, dans une de nos réunions le mois dernier, nous avons reçu 3 lycéennes. Qui préparaient leur TPE, donc elles avaient entendu parler de nous et elles voulaient voir comment notre journal fonctionnait. C'était assez intéressant à la fois pour elles de nous découvrir, de
voir comment. TPE, ça veut dire travail personnel
encadré.
Encadré.
Voilà c'est une option facultative au bac pour tous les élèves de terminale. Et oui, c'était une rencontre intéressante. Elles ont pu voir comment nous fonctionnions et nous aussi, nous avons pu avoir un avis extérieur sur notre travail. C'était assez enrichissant.
C'était très bizarre pour nous de les accueillir, ces 3 jeunes filles qui sont venues avec beaucoup de révérence à notre égard et on avait du mal à... On a un peu joué cette comédie du journaliste sûr de lui et sûr d'eux et non c'était très marrant parce qu'elles sont venues avec beaucoup de respect et pour être honnête on est dans le bal du ciment encore et nous-mêmes on se cherche et de penser on nous accorde il y a ce truc quand même c'est qu'on nous accorde pas mal de crédit alors qu'on vient à peine de commencer dont on ne se sent pas encore le droit de l'accepter et de dire qu'on le mérite. On en est encore, nous, à se chercher. On n'est pas totalement satisfait du travail que l'on produit pour l'instant, mais on tend à s'améliorer. Mais on reçoit déjà des visites et des félicitations qu'on a du mal à accepter encore.
Oui, tout simplement, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont envie d'écrire, malheureusement, qui n'ont pas cette capacité d'écrire sans faute d'orthographe, mais qu'ils ont un potentiel énorme. C'est vrai que ça, c'est des gens qui écrivent et qui parlent avec le cœur. Et justement, dans le deuxième tirage, on va un petit peu avancer la chose au niveau du journal. On va essayer de faire un portrait d'une réussite de quelqu'un, en fait, d'un personnage qui ne serait-ce à réussir dans son domaine, professionnellement ou sportivement. Et ça nous tient vraiment à cœur de faire un portrait, justement, de valoriser ces gens. Pas pour les valoriser et les mettre sur un piédestal, non, c'est justement pour montrer aux gens que quand on veut, on peut. et leur montrer un exemple, justement. Et peut-être que de cette façon-là, ça va donner l'envie à beaucoup de gens de prendre le même chemin ou de même de passer dans... Oui, mais voilà, quoi.
Tu penses à qui, là?
Oui, bah, je pensais à Asdin, en fait. C'est un article sur un jeune qui a commencé, en fait, en tant que pompier volontaire et qui, maintenant, grâce à l'envie, la volonté, est devenu pompier professionnel et très respecté dans ce métier et dans ce milieu-là. Et comme il nous a expliqué, c'était très, très dur d'en arriver là. Et avec la volonté, la vaillance et l'envie, on peut tout faire.
C'est un exemple pour tous les gamins du quartier.
Exactement.
Et Kader va porter ça et chacun vient avec son idée. Et lui, ce qu'il avait envie de mettre en valeur, ce sont tous ces héros ordinaires. Voilà, pas forcément de grandes réussites. Il n'est pas parti à la recherche, et c'est ce que j'ai aimé dans sa démarche. Il n'est pas parti à la recherche de médecins du quartier qui auraient réussi ou de je ne sais pas qui serait devenu astronaute. Il présente des parcours. Kader met toute son estime dans ce qui fait un homme ou une femme, c'est-à-dire des valeurs, un courage, tous ces sentiments ou qualités universelles, et il essaie de les incarner dans des portraits de personnages auxquels on peut tous s'identifier. Puis là, pour le coup, avec ce pompier et puis ce avenir, tu vas peut-être proposer et faire naître des vocations. Voilà.
Une petite pause musicale, alors du rap. Alors du rap un peu particulier. Nous allons vous présenter donc un rappeur qui est donc de Annaba, donc en Algérie. Alors aujourd'hui, donc c'est là. C'est la soirée de l'Algérie, hein. Voilà, avec un jeune rappeur qui s'appelle Lotfi, qui a commencé donc, qui est donc de formation et de métier donc ingénieur d'État en géologie, hein. Et puis il a tout laissé tomber et il a fait donc une carrière de rappeur. Son style est très donc direct. Et ses paroles, elles sont vraiment très très franches, ce qui dérange parfois donc les pouvoirs en place. Voilà donc le titre de Lotfi, Canon. Alors l'introduction, c'est du dialecte égyptien, ce qui va rappeler donc cette rivalité donc stupide entre l'Algérie et entre donc l'Égypte concernant le foot. Voilà, mais les textes donc de Lotfi sont très très intéressants à vous.
بس كنت أفكر في حاجة يعني
إيه؟ عاوزة فلوس؟
كنت أفكر إذا ما كنت جانا أنا حكون من يا حاج
اسم الله عليك
ممكن يعني أكون ميادة الحناوي
ها؟
مطربة قد الدنيا
ميادة الحناوي ضربة يعني. واحدة
أو فاتشين حمامة يا حاج
فاتي لا كليوباترا أحسن
ممكن أكون حاجة أكثر
دي هتلخبطينا معك يا بنت
لا
مالك يا بنت؟ أم المستنقعات؟
لا يا حاج ما تفهمش غلط يا حاج
كل ما جيت جنا وش راح نكون مالا وش راح يصير وش راح ندير وش راح نعود لهنا كل ما جيت جنا في باص كون راح نكون طلع وش راح ندير وش راح نهدر وش راح نقول كل ما جيت جنا وش راح نكون مالا وش راح يصير وش راح ندير وش راح نعود لهنا كل ما جيت جنا في باص كون راح نكون طلع وش راح ندير وش راح نهدر وش راح نقول كل ما جيت جنا ما نعرف شكون حنكون بلاك عب نورمال بلاك نكون عب مهبول بلاك نكون باشع كيما كان فرانكنشتاين بلاك نكون جيني ومخ كيما اينشتاين راسي واللي كبير والفهم ما منو خارجة بلاك نتخربط كيما دونكي شوت دي لامنشا بلاك نولي شاعر كيما كان شكسبير بصح لي زيستوار اللي نكتبهم كل بازلين تحكم روميو حكايته نعوجها تقعد عنده عقلية تاع عمر قتلت الرجلة حتى صحي بدو جوليات نقلبها طايرة تروح للعراس وتشطح كيما الشابة خايرة خسارة راني تقيل كون جي
اكيد خفيفه تلبس لي مسروبات مول بن بريسبورتيفه هكاكا رولي نحسي ليري كيما مرسلي اني صحالي وشي رجلي شويه مقوسين بصح معليش سي با كراف نورمالا باش نجري كيفو لازم نحي المراره نعود نزيكزاك كيما زيدان زيزو نتربلي ونزيد نزين باللي كود زيزو يعطوني بالون دور مام سولي دور الكلوب يشريوني يخنو بيا فوركس بار بصح ما نقدرش خطاك عندي واحد الكاره في رايك كون ما جيتش انا شكون حنكون كون ما جيتش انا وش راح نكون مالا وش راح يصير وش راح ندير وش راح نعود لهنا كون ما جيتش انا في بلاصه كون راح نكون طلع وش راح ندير وش راح نهدر وش راح نقول كون ما جيتش انا وش راح نكون مالا وش راح يصير وش راح ندير وش راح نعود لهنا كون ما جيتش انا في بلاصه كون راح نكون طلع وش راح ندير وش راح نهدر وش راح نقول كون ما جيتش انا صعيب هاد لا كيستيون واش قاولك انيماتور في التلفزيون لازمتلي ايميسيون تكون لوكس ستيل ايماجيني انا هومورات اللي قدم مسك الليل عامله لي ما نقدر لي ما كان رايحين جايين يطلع لي الغاز لعبت لي كيف يوم هيجين نخاف نجري وراها من خربتها والمسكين خربتها كي شكشوكه تاع السيده رزقي ما نشوف كل شيء الدنيا دنيا انا هو اللي نهدر في النشره تاع الدنيا نخسر معاكم كل يوم بنص عين نعوش فمي ونقول لكم
مساء الخير
لما صالحتش نروح العيله هايله لكن نقدمها معايا سيره تولي هامله خطاك في لافان انا هو اللي ندي الكادو ندير النامي ما نخلي لي دو فامي يتعاركوا ونتبزاو دماغ لي ولا لي لي بون دام في بلاصه لي كيستيون دير كومبا تاع جاكي شان يسرى سكوندان نسحت في هذاك اليوم في رايك كون ما جيتش انا شكون حنكون كون ما جيتش انا وش راح نكون مالا وش راح يصير وش راح ندير وش راح نعود لهنا كون ما جيتش انا في بلاصه كون راح نكون طلع وش راح ندير وش راح نهدر وش راح نقول كون ما جيتش انا وش راح نكون مالا وش راح يصير وش راح ندير وش راح نعود لهنا كون ما جيتش انا في بلاصه كون راح نكون طلع وش راح ندير وش راح نهدر وش راح نقول ايماجيني في سبور نولي معلمه ندير ايميسيون نسمها ملعب العالم نبان فيها واعره ومعايا شي ما يبوجي يعرفوني شكون انا الفريحه في دراجي شوف هذاك الكوست ملاكوب لي في راسي الريحه ايغو بوس ولا بار بيان راسي كي بداو لي ماتش اللي يهدر انا بو اني معروف باللقطه دي عيتها بصح خساره ما نفهم والو في البالو جامي قدرت نفرق بالريبالدو رينالدو على ديك راني است مام وليده تريست بصح مازال سبور قد نولي ارتيست نروح على الصاده ونعود صافي بوتلا ندير سبيكتاكل شوفو تحلك الدمعه في بلاصه الحصنة نجيب السوده تتعارك نجيب لكم مام لي دينوزور تاع جوراسيك بارك بصح هاد الفن لازمت له صور من فونكا وانا يا زوالي كيما كان الشيخ العنقة حتى صوتي باشع ولا بواتي مهبوله زيدو نجيب لكم وحده تاع بيونا خلي برد لا يتكسر الديكرون حتى الكليب زداو يولي نواري بلون ما نقبل ما يروح الصون تبعني وقوله في رايك كون ما جيتش انا شكون حنكون كون ما جيتش انا وش راح نكون مالا وش راح يصير وش راح ندير وش راح نعود لهنا كون ما جيتش انا في بلاصه كون راح نكون طلع وش راح ندير وش راح نهدر وش راح نقول كون ما جيتش انا وش راح نكون مالا وش راح يصير وش راح ندير وش راح نعود لهنا كون ما جيتش انا في بلاصه كون راح نكون طلع وش راح ندير وش راح نهدر وش راح نقول كون ما جيتش انا وش راح نكون مالا وش راح يصير وش راح ندير وش راح نعود لهنا كون ما جيتش انا في بلاصه كون راح نكون طلع وش راح ندير وش راح نهدر وش راح نقول كون ما جيتش انا وش راح نكون مالا وش راح يصير وش راح ندير وش راح نعود لهنا كون ما جيتش انا في بلاصه كون راح نكون طلع وش راح ندير وش راح نهدر وش راح نقول
خلاص يا حق لقيتها خلاص
وايه اللي لقيتي
يعني انا كنت افكر كده وقلت ممكن يعني اكون باميلا هندرسون
يعني
ليه؟
باميلا هندرسون مين
باميلا هندرسون بتاع اليرتا ماليبو
الله اكبر
وممكن يعني اتجوز الولد ده اللي هو بيغني في دوبلي كانون ممكن جدا يعني
لطفي
بتاع دوبلي كانون
بس الولد دايت عنده فلوس.
Voilà, c'était donc Lotfi, donc le titre Kun Majitana, si j'étais pas là, extrait de son album qui s'intitule tout simplement Virus. Voilà, donc c'est un rappeur rebelle algérien. Alors, après la rébellion, nous allons donc entamer donc ce thème donc de l'identité nationale. Et nous allons donc parler du manifeste de votre... De l'édito qui va constituer donc le second numéro de Quartier Revue. Alors juste rappeler quand même ce grand débat de l'identité nationale initié donc par Nicolas Sarkozy hein, et dont la grande question qui se posait alors qu'est-ce que être français, voilà.
Et bien sûr, le, pour ne pas se le cacher, le public visé, c'était donc les Français d'origine immigrée, pour ne pas dire les classes populaires, les arabo-musulmans, les noirs. Et bien sûr, les visés étaient électoralistes. Malheureusement, la mayonnaise n'a pas donc prise et le débat a été clôturé par un séminaire du gouvernement. Alors juste pour rappeler quand même les gens qui sont initiateurs de de cette idée donc de l'identité nationale. Alors Nicolas Sarkozy, Éric Besson, Jean-François Copé, quand on voit donc les personnages, ce sont tous des citoyens qui sont métissés, hein. Ils ne sont pas donc descendants de Louis XIV ni de Louis XVI. Voilà, donc Nicolas Sarkozy est d'origine hongroise. Sa mère est d'origine grecque. Éric Besson est né au Maroc, dont la mère est une arabe libanaise et le père est un soldat, donc un militaire français. Il est né au Maroc, il a grandi au Maroc. Jean-François Copé, donc, dont la mère est d'origine algérienne. Voilà, donc, ce que, donc, les initiateurs, entre autres, donc, de ce débat de l'identité nationale. Alors, vous, dans votre édito, alors, comment vous abordez donc cette identité nationale ? Mathieu ?
Tous ces noms que vous avez énumérés sont remarquablement bien placés pour dire qu'il n'y a pas qu'une seule identité française. Ce sont des gens issus de l'immigration. La France a ouvert ses portes aux étrangers pour s'enrichir de plusieurs cultures différentes, avoir une image cosmopolite. Et c'est pour ça que j'ai trouvé sur le coup la question de savoir qu'est-ce qu'être français totalement absurde. Il ne faut pas s'attacher à une seule identité nationale. La France a énormément d'identités, c'est ce qui fait sa richesse. Et j'ai trouvé ça très surprenant de la part de gens issus de l'immigration que sont Éric Besson et Nicolas Sarkozy de poser la question.
Nordine ?
D'abord, quand on a rédigé ce qui va être l'édito, ce manifeste sur l'identité nationale, on était en plein dedans. Et on était dans cette urgence. Et je suis heureux maintenant que ce débat est derrière nous, quoi, de voir qu'il a été un flop. On nous a posé la question, qu'est-ce qu'être français ? Et je suis heureux de toutes ces copies blanches qui ont été rendues comme par... c'est des copies blanches qui sont revendicatives, elles disent on n'a pas à vous répondre, on n'a pas à répondre, et puis surtout il y a peut-être rien à répondre. Mais je me souviens, je vis ça comme un vieux souvenir, parce qu'on a envie d'oublier ce débat sur l'identité nationale. Mais d'abord, la première réaction qu'on a eue, je me souviens, c'est un refus. On avait envie de le laisser passer, et on pensait que tout le mal qu'on pouvait faire à ce débat sur l'identité nationale, c'était de ne pas le commenter, justement. Or, il s'avérait que avec ou sans nous, le débat avançait, bousculé, blessé, et sans jamais se retourner pour... en tout cas, les instigateurs de ce débat ne se retournaient jamais pour s'excuser ou s'expliquer. Une fois le débat lancé, il avait l'air de vivre tout seul. Et c'est l'irresponsabilité de la démarche. C'est qu'on a laissé les gens se rentrer dedans. Sans que le ministère Besson ou Sarkozy ne se soit rendu coupable de quoi que ce soit. On nous jurait, on nous a tout de suite juré que ce débat concernait tout le monde et que tous pouvaient s'en saisir. Or, il s'avère que l'époque, ce qu'on vit, est très connotée islam, immigré, oui, plutôt arabe et musulman. Et c'est sans avoir préalablement désigné une cible que les bourreaux et les victimes se sont trouvés. Finalement, ils n'ont que lancé un débat qui a juste foutu un trouble terrible.
Kader.
À la base, ce que je trouve choquant, c'est que avant de nous parler de l'identité nationale qui nous ont bassinés avec ça et qui nous bassinent encore, hein, je suis désolé d'employer ces termes, ils nous ont parlé souvent d'intégration. Intégration. Donc, si je vous pose une question là tout de suite, si je vous demande maintenant tout de suite de me dire en quelle langue vous rêvez, vous allez me répondre automatiquement, on rêve en français. Donc même dans nos rêves, on a intégré. Donc il faut qu'ils arrêtent de nous parler de ça. Et juste après, là, je ne sais pas, je me dis, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est politiquement voulu? Ou est-ce que c'est calculé? Ou est-ce que c'est fait exprès? C'est la question que je me pose. Après tout ceci, ils nous parlent là maintenant d'identité nationale. Avec 3 points d'interrogation.
Forcément, c'est voulu. Moi aussi, je me réjouis de la mort de ce débat, mais faut quand même reconnaître qu'il a eu le mérite, enfin le mérite pour les politiciens, il a eu le mérite d'exister et peut-être de faire monter la haine envers les immigrés en France. Quoi. On n'avait pas forcément besoin de ça. Et même si le débat est mort, il a quand même servi à détourner les Français de leurs problèmes principaux, de leurs vrais soucis. Et voilà, ça a contribué à faire monter la haine dans un pays qu'on n'avait pas forcément besoin quand même. Donc même si le débat est mort, il a quand même bien fait mal, je pense.
Mais puis c'est ce qu'il y a de très irresponsable à livrer un débat comme ça, clé en main à une population, parce que le débat, la façon dont il a été saisi et la façon dont les gens l'ont traité, enfin, les bourreaux, hein, parce qu'il y a et les bourreaux et les victimes, c'est un traitement par élimination. Tout le monde partait à la recherche de ce qu'est de cette définition, qu'est-ce qu'être français. Et donc le raisonnement se faisait par élimination et chacun y allait par sa petite restriction. Et français, si on devait collecter et enregistrer tous les nouveaux critères, c'était quelque chose de large qui est devenu quelque chose d'hyper étroit. Parce que les considérations sont passées par une chose religieuse, par une langue, par vachement de trucs qui tout d'un coup disqualifient beaucoup de monde d'un coup. Or, c'est pas du tout ça. C'est ce qu'il y avait de criminel, je trouve. C'était d'autoriser une partie de la population qui attendait peut-être sa revanche. De pouvoir en éliminer une autre. Et c'est en ça que un trouble social a été jeté. D'ailleurs, c'est un indice hein, d'une... Oui, d'un...
Nordine, ce qui est paradoxal, c'est que quand on voit, par exemple, la population donc des quartiers populaires, mais ils se sentaient pas du tout concernés dans l'immense majorité, à part les intellectuels. Ils ne se sentaient pas du tout concernés par ce débat de l'identité nationale. Et ce qui fait... on s'attendait à un certain moment à certaines tensions dans les quartiers populaires, dans la banlieue. Alors les gens, ils ont été vraiment mais indifférents, voire... Alors comment vous expliquez ça?
Ben, tout simplement parce que bon, c'est le carcan du quotidien de ces gens-là qui a pris le dessus, leur réalité du quotidien, enfin leur réalité de tous les jours, quoi. Voilà, c'est tout. Et je pense que le gouvernement a sous-estimé les Français en leur posant cette question, vu que bon, ils ont été assez intelligents pour l'effacer de leur réflexion, quoi. Voilà,
c'est une diversion ratée.
Voilà. Et je voudrais rajouter, Kader dit à l'instant, là, est-ce que ce débat a été voulu? Oui, il a été voulu à la base. Ça a été une manœuvre politique pour faire des appels du pied, enfin un appel du pied au Front National pour des finalités électoralistes. Voilà. Et voilà, et c'est aussi, pour faire diversion, une stratégie de communication dont les Américains appellent le spin doctoring, qui vise à divertir la masse des problèmes importants. Voilà.
Tels que le chômage, voilà, la justice, la retraite, le pouvoir d'achat. D'ailleurs, moi, j'ai vu, là, il y a une caricature que j'ai trouvée sur Internet d'un dessinateur qui s'appelle Large. Alors, avec en duo, donc, Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy, hein, et à côté d'eux, donc, une femme avec une burqa. Et il y a Jean-François Copé qui soulève donc la burqa et Nicolas Sarkozy avec un balai. Il est en train de mettre sous la burqa la retraite, la crise, les SDF, la justice, le chômage et le pouvoir d'achat. D'achat, pardon. J'ai dit le pouvoir d'achat. Kader.
Il fallait bien un coupable. Hein. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que Sarkozy, en fait... nous a souvent parlé de, enfin nous a souvent parlé et a souvent accusé des personnalités ou des personnes de double langage. Bon, je vais pas vous dire qui, je pense que on le sait tous. Bon, je vais citer son nom, Tariq Ramadan.
Oui, Tariq Ramadan.
Tariq Ramadan, il a souvent accusé de double langage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement Sarkozy a condamné et veut combattre avec force le communautarisme. Mais ce qu'il est en train de faire, il est en train de parallèlement de créer un autre communautarisme. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'en faisant ce débat sur l'identité nationale, les gens qui vont se reconnaître là-dedans, ils vont s'enfermer, ils vont discuter entre eux, ils vont se côtoyer, ils vont essayer de trouver des solutions, parce qu'on se sent un petit peu, parce que je me mets dedans aussi, hein. Donc, je suis fils d'immigré, et on va se sentir un petit peu rejeté, et va se créer là, à ce moment-là, une forme de communautarisme. Et là, il faut faire attention à ça.
Il reste moins de 4 minutes, alors un dernier tour pour clore donc l'émission. Mathieu ?
Oui, vous veniez de parler du dessin, c'était juste pour souligner aussi que les illustrations montrent le côté un petit peu sympathique du journal, elles sont souvent drôles, et puis ça illustre, il y en a au moins une par page minimum, c'est des dessins assez rigolos qui donne un petit peu d'air à nos écrits.
Kader, un dernier mot ?
Ben moi, je suis très très fier de faire partie de ce journal, d'intégrer cette équipe. J'en suis ravi même, parce qu'on est une bande de copains, une bande d'amis, et qu'on a envie de pas de faire changer les choses, mais juste de faire éveiller les consciences, et en espérant qu'on va y réussir.
Hakim ?
Moi aussi, je suis très honoré de faire partie de ce journal, vu que ses ambitions liées à ce journal et sont très nobles, hein, voilà, et j'espère les honorer, ces ambitions, voilà.
Et Kader, j'allais dire
Nordine.
Nordine, voilà, on va terminer par Nordine, qui est le rédacteur en chef du journal Quartier Revue de La Payade.
Mais pour pas interrompre le cours de la conversation, on était déjà assez stressés comme ça, pour pas se mettre des bâtons dans les roues. J'ai pas relevé. On a beaucoup parlé du quartier et donné peut-être l'impression que ce journal n'était fait par des habitants de la Payade, pour des habitants de la Payade. Or, on a un vrai souci qui est dans notre cahier des charges, et c'est un souci constant de se demander de se demander s'il plaira ailleurs que dans le quartier. Et c'est pas rien de se poser la question. Ça fait partie de ces choses qui lors de nos premières réunions rédactionnelles, nous ont fait choisir des sujets. Des sujets universels qui forcent à la rencontre. Ce qui est intéressant, c'est pas de parler de la Payade au Payadin, finalement. Si c'est vrai que la Payade est à la taille d'une ville, mais l'idée, c'est pas de renseigner le haut de la Payade, hein, de ce qui se passe au bas de la Payade. C'est vraiment de sortir du quartier et
pourquoi pas voir Montpellier, le grand bien Montpellier, sûr. avec le Payadin, c'est ça ?
C'est ce qu'on veut, c'est tendre vers ça. On commence par ce qu'on connaît le mieux, donc c'est la Payade, mais on aura vite fait le tour. Et ce dont on rêve, c'est d'abord c'est de voir notre journal traîner dans les bars du centre-ville et pas qu'à la Payade. Enfin, on a vocation à s'ouvrir vraiment.
Voilà, donc l'émission a été agréable, mais malheureusement le temps est presque terminé. Hein. Alors merci Nordine Barra.
Merci de nous avoir reçus.
Merci Hakim, Kader merci. Et Mathieu.
Merci.
Et surtout merci donc à Tao qui est donc à la réalisation technique. Alors quant à Modesto Jamal, vous dit donc au revoir et à la semaine prochaine. Merci.